Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja, c'est l'épisode 404. Nous sommes en mai 2021 et nous allons vous parler de plein de choses absolument passionnantes et savoureuses pour vous accompagner pendant ce déjeuner ou dîner ou goûter. Hein. On est là avec vous dans les oreilles chaque semaine et on va vous parler d'Apple Music qui va amener sur le devant de la scène tech la musique sans perte, la musique lossless. On a Elon Musk qui continue à troller, ou peut-être pas à troller, mais en tout cas à dire des choses sur les crypto-monnaies. On a des rumeurs sur Google I.O. qui est ce soir, donc on ne va pas en parler trop longtemps non plus, mais aussi sur les prochains téléphones Pixel de Google. On a également des clarifications sur la politique de WhatsApp qui est en train de changer et plein d'autres sujets, des suites de Darkseid et AXA, c'est presque des noms de méchants de Star Wars par exemple, et plein d'autres choses encore, mais je ne suis pas tout seul pour vous parler de tout ça. Je suis très heureux de recevoir, comme tous les mois, Marion dans l'émission. Comment ça va, Marion ?
Bonjour à tous. Écoute, ça va très bien. Je suis ravie d'être présente et on a des sujets particulièrement intéressants aujourd'hui et variés. Donc, hâte de rentrer dans le cœur du sujet.
Ils ont bien timé leur truc chez Apple hein, pour l'annonce de Apple Music Lossless à haute qualité, juste quand tu es dans l'émission. C'est très gentil de leur part.
Non, mais ils l'ont fait exprès. Attends, c'est Tim qui m'avait appelé pour caler ça, quoi.
Ah, parce que c'est bizarre, c'est sorti de nulle part. Je me suis dit, pourquoi ils l'ont annoncé maintenant ? Et c'est toi qui lui as dit, alors attends, je passe dans le rendez-vous tech, mardi 18, donc si tu peux l'annoncer le 17, ouais, ça
exactement.
Sera parfait. Ok, très bien, très bien.
Non mais tu vois comment ça a été calculé en fonction de Marion, donc j'ai à la fois Sundar et Tim, puisque Tim donc, a annoncé le lossless, et j'ai aussi le mug demain matin, donc comme ça, ce soir, j'ai la conférence Google, ils avaient tout prévu en fonction.
C'est parfait, ils sont vraiment super gentils hein, quand même. Avant de se lancer dans tous ces sujets, je voudrais tout de même remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission. Je dis les auditeurs, ça se trouve, ils n'écoutent même pas l'émission, ils veulent juste la soutenir et ils font un excellent travail dans ce domaine. Je vais remercier aujourd'hui David, Benzi, Sech, Galet, Nicolas Cholet, Michel, Calixte et Romuald Bouffet. Merci à vous tous de soutenir l'émission et merci également à Raph qui est le producteur de cet épisode. Raph, je me demande si est-ce que c'est Raphaël a priori ? Mais ça se trouve, c'est autre chose. Peut-être que c'est Raphaëlito, Raph, je ne sais pas très bien ce que ça pourrait être d'autre que Raphaël en fait. Donc merci à Raph de soutenir l'émission et merci à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission Le Rendez-vous Tech sur Patreon. Alors, on va parler un petit peu Apple Music et surtout l'annonce de ce nouveau service, le service lossless. Qu'est-ce que ça veut dire lossless ? Ça veut dire que c'est de la musique haute qualité. Et peut-être que je vais faire une toute petite explication rapide de l'aspect technique de la musique haute qualité. Est-ce que tu crois, Marion ? Je vais me lancer un défi à moi-même. Est-ce que tu crois que je vais pouvoir expliquer en 2 minutes ce qu'est la compression en informatique et ce que sont les formats lossless ?
Franchement, je pense que tu peux t'en sortir. J'ai confiance en toi. Écoute, merci. Je chronomètre, là, j'ai la petite horloge.
Alors, en fait, c'est la compression en général. C'est le fait de réduire la taille d'un fichier en encodant un petit peu les informations qu'il contient. Vous savez que tous les fichiers, tous les formats de documents sont en numérique et ils sont donc composés de bits de 0 et de 1. Il y a des séries de bits qui sont soit à 0, soit à 1. Bon, c'est assez basique, je pense que vous le savez tous. La compression, c'est prendre ces informations et la réduire si possible. Par exemple, si on a une séquence de 5 bits qui sont tous, ou de 10 bits qui sont tous à 1, eh ben, on va prendre cette séquence, on va dire, plutôt que de dire 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, on va coder ça, on va dire, bon voilà, il y en a 10. Et donc, on va dire, c'est 10 fois 1. Ok, très bien. En 10 ans, là, on en met 10. Et ben, en seulement une quantité d'informations plus courte, on a décrit cette longue séquence de 10 bits qui était à 1. Ça, c'est la compression en général. Et ça peut, on peut trouver des moyens de faire une compression qui est plus ou moins forte. Imaginez que cette série de 10 bits, donc on a toujours 10 bits à 1. Vous remarquez que je ne fais pas de remarques puériles sur la nomenclature informatique. Hein, mais donc, on a 10 bits qui sont à 1. Ça décrit parfaitement, quand on dit il y en a 10, ça décrit parfaitement la séquence en question. Donc, c'est une compression qui est sans perte, lossless. Loss, c'est perte, less, sans. Donc, sans perte, ça décrit exactement la nature du fichier. Imaginez maintenant qu'il y ait un de ces 10 bits qui soit un 0 au lieu d'un 1. Et on a deux choix à ce moment. Soit on rallonge la description, on va dire, bon, il y a 5 1, 1 0 et puis 4 1. Donc ça devient beaucoup plus compliqué à décrire. La compression va être toujours compressée, ça va être plus court de le décrire comme ça que d'énumérer chaque bit 1 à 1, mais ça va être quand même plus volumineux que si on avait dit, que la version où on avait simplement, on a 10 bits qui sont à 1. Ok, très bien. Sauf que on peut également se dire, bon, franchement, il y a un seul bit qui est à 0, parmi ces 10 bits qui sont à 1, on va faire comme si on ne l'avait pas vu, et on va dire que c'est quand même 10 bits à 1. C'est-à-dire que si on avait pris la version juste avant, et qu'on avait décrit en disant 5 bits à 1, 1 bit à 0, 4 bits à 1, c'était toujours lossless. On décrit exactement le fichier en question. Et bien là, si on dit on va oublier le 0 au milieu, on va faire comme si on ne l'avait pas vu et on va dire, allez, ça va pas, c'est pas si important que ça, il n'y en a qu'un seul, on va quand même dire que c'est 10 bits à 1. Et bien là, on a toujours une grosse compression, mais elle est plus lossless. On a approximé l'information. Et donc, quand on va décompresser le fichier, quand on va le remettre dans son format initial, et ben là, il y aura une petite erreur qui s'est glissée, une erreur volontaire, parce que ça nous permet d'avoir une compression de fichier plus importante, mais bah, c'est une erreur quand même. Et donc, c'est la différence entre les formats lossless et les formats lossy, donc les formats avec perte. Les formats lossless, ils compriment quand même les fichiers, mais sans aucune perte d'information et de description. Les formats lossy, qu'on utilise traditionnellement dans tous les domaines ou dans quasiment tous les domaines, eh ben, ils compriment beaucoup et plus ou moins en fonction des paramètres, mais ils perdent un peu d'information. Parfois, on n'en perd pas beaucoup, parfois, on en perd beaucoup. Et donc, les formats qu'on utilise généralement, c'est pour la musique du MP3. Et le format MP3, eh ben, il perd pas mal d'informations. Les musicophiles le savent bien, il y a d'autres types de formats qui compressent, bien sûr, parce que le format CD classique qui n'est pas compressé, vous savez que ça prend la taille d'un CD, donc 600 mégas peut-être pour 70 minutes de musique. Évidemment, en format MP3, 70 minutes de musique, ça va prendre quoi 70 mégas, quelque chose comme ça, donc 10 fois moins. Et ben, il y a des formats intermédiaires qui sont compressés sans perte, qui sont moins volumineux qu'un format de CD, voire parfois peut-être un petit peu plus volumineux quand ils sont vraiment, vraiment en haute qualité. Mais il y a aussi les formats avec perte qu'on utilise depuis très longtemps, les formats MP3, certains formats AAC, qui sont ceux qu'on utilise pour la musique depuis l'avènement de la musique numérique, et notamment sur les services de streaming. Donc voilà, la petite leçon, ça a pris beaucoup plus que 2 minutes, mais j'espère que ça aura été clair sur ce que sont les formats compressés avec perte ou sans perte. Et maintenant, vous comprenez. Et donc, c'est extrêmement important à comprendre, pour vraiment comprendre ce que va offrir Apple. Et bien, Apple, ils vont ajouter à leur service de musique, tel qu'il existe déjà aujourd'hui, leur service de streaming et de téléchargement, des formats sans perte, qui seront plus volumineux au niveau des fichiers. Il y a plusieurs options différentes, mais ils seront sans perte. Donc, la qualité du son devrait être bien meilleure. C'est un ajout qui est fait sans supplément financier. Donc, vous y avez droit avec votre abonnement Apple Music tel quel. Et ça a déjà des répercussions sur le reste de l'industrie, puisque Amazon a annoncé qu'ils intégraient le format haute qualité qui existe déjà chez eux à leur abonnement existant pour Amazon Music Unlimited. Je crois que c'est le nom du service. En gros, ils ont déjà, eux aussi, suivi la tendance qui a été insufflée par Apple, même si le service d'Apple ne sera présent qu'à partir de juin. Bon, j'ai beaucoup parlé et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Oui, mais attends, la musique, elle est déjà bien. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de lossless ? Est-ce que c'est vraiment intéressant, la haute qualité ?» Je ne sais pas si Marion, toi, tu es une fan de lossless ou si tu fais partie de ces gens qui essayent de convaincre le monde entier que le lossless et le FLAC et tous ces formats sont bien mieux que notre pauvre MP3 qui massacre la musique et nous massacre les oreilles. Mais qu'est-ce que tu penses de cette annonce d'Apple au niveau de la musique, bien sûr, et puis peut-être plus généralement au niveau de l'industrie? Dis-nous tout.
Alors, moi, je suis pas du coup une ayatollah, hein, du tout une ayatollah du lossless et compagnie, parce qu'en fait, je vais privilégier la facilité d'utilisation et la facilité d'adoption. Je suis un peu biaisée product designer. Je trouve qu'il y a un vrai positionnement bénéfique pour le monde entier de faciliter l'accès à la culture, à la musique. Mais à n'importe quoi, et donc je vais pas conditionner l'accès à la musique à un casque avec fil et des formats qui sont compatibles lossless. Donc moi, dans mon usage de tous les jours, honnêtement, j'ai des AirPods Pro. Après, j'ai même un casque sans fil là pour écouter le rendez-vous tech. Mais après, chez moi, par contre, j'ai une installation de bonne qualité, c'est-à-dire je vais avoir un très bon ampli, je vais avoir des très bonnes enceintes et je vais avoir une platine avec des vinyles parce que moi j'aime bien le son des vinyles, etc. Donc là, quand j'ai envie de vraiment de me faire plaisir, je me fais plaisir. Mais dans la vie de tous les jours, je vais adapter la qualité à mon usage à un moment T, quoi.
Mais alors, ça me permet de te poser déjà la première question. Pour un kidam comme moi qui a grandi avec les CD, mais qui aujourd'hui écoute depuis, on va dire, 20 ans du MP3 compressé, est-ce que vraiment on ressent la différence de qualité? Je pense que c'est ce que se demanderont une grande partie des auditeurs qui sont dans mon cas. Est-ce que vraiment c'est quelque chose de sensible quand on passe d'un format compressé comme le MP3 ou le AAC à du lossless de bonne qualité? Est-ce que là, tout à coup, genre, on a les oreilles qui s'éveillent et on se rend compte, mon Dieu, j'ai jamais vraiment écouté de musique avant? Est-ce que, ok, c'est pas nécessaire, c'est comme le meilleur appareil photo, c'est celui qu'on a dans la poche, ce que disaient beaucoup de photographes à propos des caméras de smartphone, ouais. À une période où ils n'étaient pas encore de si bonne qualité qu'aujourd'hui. Mais est-ce que c'est un petit peu la même chose, mais quand même, c'est quand même meilleur quand on a un vrai truc de bonne qualité?
En fait, tu as plusieurs critères qui vont impacter ça. C'est à quel point la personne est mélomane, donc est-ce qu'elle a vraiment un intérêt à faire un extra effort pour avoir une meilleure qualité? Est-ce qu'elle a éduqué son oreille? Donc ça peut, elle peut ne pas être éduquée ou avoir pris des mauvaises habitudes, comme toi, Patrick, avec la MP3 dernièrement.
Oh, si tu savais, j'ai tellement de mauvaises habitudes. Tellement.
Donc voilà, donc t'as un peu endormi tes oreilles, et puis il y a le fait qu'il y a l'âge aussi, hein. Je suis désolée de te le dire, mais ton oreille, bon, elle rajeunit pas. Et donc avec l'âge, on entend quand même moins bien. Et si tu vas à beaucoup de concerts, il y a des chances que tu l'aies endommagé aussi. Donc moi, par exemple, c'est mon cas. Donc il y a plein de critères qui rentrent en jeu. Donc après, je dirais plutôt, base-toi sur est-ce que t'as vraiment envie de faire cet effort? Est-ce que t'es mélomane? Est-ce que t'as envie d'éduquer ton oreille? Et si oui, bah pourquoi pas? Mais si t'as pas forcément envie de faire cet effort en plus, ça vaut peut-être pas la peine de, t'encombrer d'un équipement qui va être quand même plus encombrant. Si on parle de DAC, etc., ça veut dire qu'il faut que tu te trimbales un boîtier en plus de ton smartphone et de ton casque ou écouteur avec fil, pour le coup. Donc ça va t'encombrer, ça va compliquer ton expérience, etc. Donc là, c'est vraiment un choix personnel. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, en fait. Ça dépend de ton utilisation et de à quel point tu es mélomane. Voilà. Donc il n'y a pas de mauvais profil de personnes qui écoutent la musique, quoi.
Tu es bien trop accommodante, Marion. Moi, j'espérais que tu me dises, mais non, Patrick, qu'est-ce que ça veut dire? Quel scandale! Tu écoutes tout avec des AirPods, c'est lamentable. C'est effectivement un truc qui est important à signaler. L'équipement est différent. Et d'ailleurs, Apple a confirmé un petit peu par une réponse à une question. Ils l'ont pas dit directement et c'était fait un petit peu discrètement, mais ils ont confirmé que les AirPods ne peuvent pas utiliser le format sans perte, le format lossless, qui est le centre de l'annonce d'hier. Il y a le format audio spatial, qui est un format Dolby Atmos, qui fait une spatialisation du son, qui là est disponible, mais c'est quelque chose de complètement différent. Comme les AirPods et les AirPods Max utilisent un format Bluetooth compressé, ils ne sont pas compatibles avec ce format lossless. Et comme tu le disais, il faut un DAC, donc un Digital Audio Converter, qui est généralement un petit boîtier, un tout petit dongle, on va dire, qui vient se brancher, alors soit sur un port USB, soit sur le port Lightning du téléphone de l'iPhone, et qui là a un port jack, le fameux port jack qu'ils ont supprimé il y a quelques années des téléphones. Alors, je vous rassure, le port jack de base des iPhones à l'époque ne suffisait pas aux vrais musicophiles pour avoir une qualité d'expérience vraiment bonne. Donc, le DAC de l'iPhone qui était intégré à l'iPhone à l'époque n'était pas suffisamment bon pour ça. Donc, il aurait de toute façon fallu un dongle en plus. Mais pour vraiment en profiter, il faut ce convertisseur et un casque filaire. Donc, sur un iPhone, c'est pas juste en branchant votre petit écouteur tout pourri, comme l'AirPod Pro que j'ai tout le temps dans les oreilles, que vous pourrez profiter de cette qualité de son. Donc, effectivement, c'est un petit peu...
Exactement. C'est ce que tu as dit, la complication, elle est à tous les niveaux. Elle est dans le format des fichiers que tu dois avoir à l'origine, dans l'appareil qui va les héberger, la connectique, le LDAC, et ensuite l'équipement que tu utilises pour écouter. Donc il suffit pas de upgrader une partie de la chaîne pour croire qu'on va pouvoir bénéficier d'une qualité lossless. Il faut avoir un équipement, et d'ailleurs c'est ce qu'on te dit quand tu t'équipes en audio, ça sert à rien d'avoir un ampli qui tue sa mère pour voilà, mais en fait il faut avoir juste une cohérence d'équipement dans la gamme qui peut se soutenir les uns les autres, et pas avoir un qui est 10 fois meilleur et avoir des enceintes pourries à la fin, ou avoir un ampli et des enceintes incroyables et écouter avec des fichiers MP3, parce que t'auras pas une meilleure qualité que les fichiers MP3. Donc vraiment, si vous partez sur cette route, il faut être cohérent dans la gamme et jusqu'où vous voulez aller, et être cohérent sur toute la chaîne d'écoute pour bénéficier en fait de cette qualité lossless. Et juste pour petite précision aussi, parce que c'est pas Apple à bloquer les équipements pour qu'ils ne soient pas compatibles avec le Bluetooth sur des fichiers lossless, c'est inhérent au Bluetooth en lui-même qui ne pourra pas transmettre un signal de telle qualité que requiert le lossless. Donc, c'est-à-dire exactement. Donc, tous les équipements Bluetooth ne sont pas compatibles avec le lossless. Et on a le petit format homemade de Sony qui est le LDAC, qui permet. Donc, ils l'ont très ingénieusement appelé LDAC, hein, en référence au DAC, mais ce n'est pas une qualité lossless. C'est aussi loin qu'on peut pousser un format sur un signal sur un Bluetooth, mais ce n'est pas un format lossless non plus.
Bah écoute, c'est en tout cas ce qui est à mon avis le plus important dans cette annonce, au-delà des petits rappels qu'on a fait, c'est que une des étapes, qui est évidemment une étape hyper importante de l'arrivée, de l'avènement de la musique lossless, de la musique vraiment de haute qualité, parce que pour le coup, c'est de la musique de haute qualité, eh bien, elle est maintenant en place, enfin, en juin avec Apple et aujourd'hui avec Amazon, elle est en place. Et donc, la base est maintenant possible. Et je crois que c'est quelque chose d'important pour l'industrie de la musique et pour l'industrie de la musique en ligne, parce que ça veut dire qu'on ne va plus vraiment revenir en arrière. Alors évidemment, tout le monde ne l'utilisera pas tout le temps, parce qu'il y a certaines contraintes, mais je pense qu'aujourd'hui, il sera compliqué pour un service de ne pas avoir cette option, et possiblement de ne pas avoir cette option intégrée à la base pour ceux qui sont équipés. Donc pour moi, c'est un changement important pour l'industrie de la musique, et ça va permettre à beaucoup de gens qui souhaiteront s'équiper de faire cette expérience. Je pense qu'il va y avoir très très vite des DAC qui vont être vendus et des kits avec DAC et écouteurs, ou si vous avez déjà des écouteurs, pour pouvoir au moins essayer la chose. Parce que
des équipements avec DAC intégré. Ouais. Je ne sais plus quel constructeur avait fait ça, mais je crois que c'était LG. Je ne suis pas sûre. Hein. Il me semble de mémoire que c'était LG qui avait un équipement comme ça où le DAC était intégré. Donc, tu vois, ça peut même pousser la technologie à repousser les barrières et éviter d'avoir peut-être un énième équipement. On ne sait pas, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a plusieurs impacts. Ça a un impact auprès des artistes, c'est-à-dire que c'est quand même plus flatteur pour les artistes d'avoir leur contenu qui est disponible dans une meilleure qualité. On l'a du côté des réalisateurs qui vont pousser l'expérience cinéma, et avec certains critères, bah là on va avoir les artistes de musique qui vont avoir aussi ce bénéfice-là. Il va y avoir le fait que Apple est en train de couper l'herbe sous le pied à Spotify, qui était très certainement, on peut faire l'hypothèse, en train de concocter un plan lossless payant. Et donc là, on l'a vu déjà avec Amazon. Amazon a très très vite réduit le prix de son plan lossless à 9,99€. Donc en fait, ils se sont alignés avec Apple. Donc là, ils ont quand même fait, c'est un méchant coup qu'ils font à Spotify. Mais c'est bénéfique pour, j'ai envie de dire, les audiophiles. Donc on va peut-être pas se plaindre de ce côté-là. Et c'est intéressant, peut-être que ça va repousser les limites de l'équipement hardware qu'on a aujourd'hui pour avoir des innovations sur le sujet.
Ouais. Et d'ailleurs, juste pour le signaler, il y a deux formats qui sont assez habituels, à 16 et 24 bits en 44.1 et 48 kHz. Ça parlera aux techniciens. Il y a le troisième format qui monte quand même très très loin dans le détail, à 24 bits en 192 kHz. Je ne fais pas partie de la secte des audiophiles que tu décrivais, mais ça m'a l'air quand même assez élevé. Là, je pense qu'on aura un son qui sera équivalent à ce qui sort des... plus ou moins équivalent à ce qui sort des mastering en studio, je pense. Enfin, j'espère. Imagine.
Ouais, je pense que c'est la cible, c'est très très impressionnant. Alors tout ça, c'est un coût en termes de consommation de data ou de stockage sur votre téléphone. Hein. Ça vient pas gratuit. Et d'ailleurs, il y avait une comparaison assez intéressante qui disait que avec 10 gigas, vous pouviez stocker 200 chansons. En qualité maximale, donc c'est quand même pas la même quantité qu'on peut avoir en MP3 ou même en lossless légèrement inférieur, donc faudra faire attention peut-être à ça, mais après on a des plans de plus en plus illimités ou avec des plans de data de plus en plus importants, je pense que c'est le bon moment aussi.
Ouais, et puis ça leur permettra de vendre des iPhones avec plus grand stockage. Mais il y a aussi, donc, comme je le disais, des options moins gourmandes. Bon, en tout cas, moi, je pense que c'est vraiment un moment important pour la musique, parce que ça fait des années, et même, je dirais, une décennie, que la musique et les audiophiles et les musicophiles tournent autour de cette idée de son de bonne qualité, de son lossless. Et là, c'est, à mon sens, la brique, le déclencheur qui met en place le fait que, on va plus revenir en arrière.
Et est-ce qu'on parle de la petite bizarrerie que l'AirPod Max, même branché en filaire, n'est pas compatible ?
Oui, on peut le dire, voilà, tu l'as dit. je profite juste, Dragomodo dans la chatroom nous confirme que le 24 bits 192 kHz, c'est l'équivalent des fichiers WAV, qui sont ce qu'on utilise en master en studio. Donc effectivement, c'est une très très grande qualité. Merci Jules. Oui, pardon Mario, donc les AirPod Max, même en filaire, ça marche pas. C'est, pour moi, ouais. Autant les sans fil, les AirPods Pro, tous ces trucs-là, c'est des tout petits trucs. L'avantage, c'est vraiment la praticité plutôt que la qualité. Autant les AirPods Max, ils sont vendus comme super bonne qualité, messieurs, dames. Nous, on fait des trucs super bons. Et même quand on les branche en filaire, on ne peut pas. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de DAC ou tu sais pourquoi ?
Je sais pas, là, je connais pas le détail hardware de l'AirPod Max. Je sais pas si c'est un problème hardware ou s'il peut bénéficier d'une mise à jour software qui pourrait débloquer ça. Donc là, j'ai vraiment pas de détails. Ce qui est un peu étrange aussi, c'est que Apple propose du format lossless sans que les HomePod, qui ne sont pas filaires, sans que les HomePod puissent bénéficier même de la plus petite. Donc on peut peut-être se demander si dans le futur, ils vont pas travailler sur du AirPlay qui permettrait de bénéficier au moins du format minimum lossless en sans fil, quoi, par rapport au HomePod. Parce que sinon, ça donne une installation maison un peu moins intéressante maintenant qu'il y a ce format de disponible. Sachant par contre que le Dolby Spatial, là, enfin, je sais pas, Dolby Atmos et tout sera disponible par contre sur tout. L'audio spécial, sera disponible sur tous les appareils. Mais je trouvais ça bizarre, en tout cas pour les HomePod, qu'il n'y ait pas de mise à jour, que pour un prochain AirPod Max, il n'y ait pas une mise à jour également.
À mon avis, les prochains appareils, peut-être pas les AirPods parce que ça continue à travailler en Bluetooth a priori, mais pour de prochains appareils, ça sera disponible. Bon, on verra bien. Bref, continuons dans nos aventures technologiques en parlant un petit peu de notre troll en chef préféré, Elon Musk. Elon Musk et c'est non, j'allais faire un jeu de mots sur le Musk, ses senteurs, ses fragrances de troll de forêt. Figurez-vous que Tesla a annoncé il y a quelques jours, après moins de 2 mois, qu'ils arrêtaient d'accepter les paiements en Bitcoin parce que le Bitcoin avait un coût en énergie et donc un coût environnemental trop élevé. Alors, c'est frustrant, cocasse et plein d'autres choses pour tout un tas de raisons. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat de est-ce que le Bitcoin a effectivement un coût environnemental élevé. Le coût en énergie est indéniable. Certains diront qu'on travaille dessus et que de plus en plus d'opérations sont faites sur des énergies renouvelables. On ne va pas rentrer dans ce débat. On en parlait dans l'épisode spécial qu'on a fait il y a quelques semaines sur les Bitcoins et vous pourrez aller l'écouter si ça vous intéresse. Mais ce qui est sûr, c'est que Elon Musk et Tesla, j'imagine, auraient dû le savoir au moment où ils ont annoncé triomphant il y a 2 mois qu'ils avaient acheté, je crois que c'est 1,5 milliard de dollars de Bitcoin et qu'ils acceptaient les paiements en Bitcoin pour les Tesla. Dire qu'ils ne l'acceptent plus seulement 2 mois après, c'est ridicule, ça ne fait pas propre. Et en plus de ça, ça laisse penser que Elon Musk est en train de jouer à des choses pour jouer de son influence, pour faire de l'argent sur les bitcoins. Mais là, le cours du bitcoin a chuté. Ils n'ont toujours pas vendu leurs 1,5 milliard de bitcoins du côté de Tesla. Donc, a priori, ils ont perdu de l'argent sur l'opération. Il a, en parallèle, je parle toujours d'Elon Musk, il a commencé à dire plus de choses sur les Dogecoin dont on parlait la semaine dernière. Et une des discussions qui est en cours, visiblement, c'est avec les développeurs des Dogecoin. Et ils sont en train de dire, on est en train de travailler ensemble avec Elon Musk, donc, pour faire en sorte que les Dogecoin soient plus respectueux de l'environnement et ce genre de choses. Ce qui, comme on disait la semaine dernière, les Dogecoin continuent à être un petit peu étranges comme crypto-monnaie où l'utilité est théorique, on va dire. Entre parenthèses, je voudrais signaler un truc, un fait notable de ma vie en ligne. Figurez-vous, et tu ne vas pas y croire, Marion, j'ai a celebrity claim. Je peux prétendre à une certaine célébrité, peut-être un peu par association. Le créateur des Dogecoin me suit sur Twitter.
Ça, c'est la chasse.
Mais non seulement il me
je
suit,
suis pas
mais
vraiment
il me
étonnée,
parle
hein.
En plus. Shibetoshi Sakamoto m'a répondu à plusieurs reprises. En plus, il a l'air très sympa.
Mais tu doutais de ta célébrité, Patrick, dans la sphère tech ?
Écoute, maintenant, je n'en doute plus, clairement. Il y a quelque chose qui se passe, là. Et c'est marrant parce que c'est le créateur du Dogecoin. Il a quitté la scène Dogecoin en 2015, après quelques années, parce qu'il se faisait harceler. Et il a vendu tous ses Dogecoin. Il a acheté une voiture, si je ne me trompe pas. Il a vendu tous ses Dogecoin en 2015. Et maintenant, il disait, non, mais c'est complètement fou ce qui est en train de se passer, etc. Bref. Et c'est marrant parce que quand ce genre de personne te répond, il y a tout. Vous savez que la scène des cryptos est vraiment pleine de gens très très convaincus et d'opportunités douteuses marketing et business, etc. Quand il m'a répondu, j'ai reçu pendant un certain temps après des messages de personnes qui le suivaient à lui à propos de « Ah, viens voir notre truc de crypto, on a des opportunités pour te faire gagner de l'argent, machin. » Bref, la vie des gens qui sont très très célèbres comme ça doit être bien différente.
Mais ce qui est intéressant aussi avec l'histoire là de Tesla et d'Elon Musk, il y a cette histoire aussi de crédit carbone ou crédit carburant qui est en train de se passer. Et c'est assez intéressant. Bah, je te laisse peut-être expliquer justement ce qui s'est passé alors.
C'était ton sujet, mais en gros, il y a en ce moment des initiatives du gouvernement américain qui visent à aider les sociétés qui font dans le renouvelable, et pour prétendre à ces subventions, Tesla, enfin, qui va prétendre à ses subventions, évidemment, Tesla s'est peut-être dit, si on est en train de jouer avec le Bitcoin, peut-être que ça ne va pas faire très propre, justement, sans mauvais jeu de mots. Et donc, on va arrêter nos conneries avec le Bitcoin et on va faire les choses plus proprement. Et du coup, on pourra avoir des subventions de l'État américain, parce que d'un autre côté, les autres fabricants de véhicules, de voitures, payaient Tesla pour acheter du crédit carbone, parce qu'eux-mêmes étaient polluants, et vont arrêter de le faire au fur et à mesure qu'eux, ils développent des véhicules qui fonctionnent sur des énergies renouvelables. Donc en gros, il n'est pas impossible que ça soit, peut-être, un troll d'Elon Musk. Peut-être qu'il est en train d'essayer de jouer avec la monnaie, parce que la monnaie, elle fait du yo-yo à chaque fois qu'il ouvre la bouche ou qu'il ouvre Twitter. Mais à côté de ça, il y a aussi cette histoire de peut-être que Tesla a un problème de financement. Enfin, il commence à devenir, à vendre suffisamment de voitures pour être profitable, même sans ces histoires de subventions carbone des autres sociétés. Mais il n'empêche, il y a quand même quelque chose là-dedans qui est peut-être une des raisons de ce retournement de situation avec les bitcoins. Est-ce que j'ai bien résumé la chose ?
Oui, tu l'as bien résumé, et sachant qu'ils font aujourd'hui une partie de leur business est déjà financée par la revente de crédit carbone, comme tu le disais, à des sociétés automobiles, et qu'ils viennent de perdre un de leurs plus gros clients, qui était l'association de PSA et Fiat Chrysler.
Ouais. Stellantis, c'est ça, c'est comme ça qu'il s'appelle.
Exactement. Stellantis. Exactement. Ils sont que ça.
Je trouve pas ça super comme nom, Stellantis, mais c'est toujours difficile de s'habituer.
Ouais, bon, c'est facile de cracher sur les noms, mais j'ai trouvé ça assez opaque ouais. pour parler d'une association de marques très connues. Stellantis, voilà, groupe né de la fusion de PSA et FCA.
Stellantis, ça fait un peu nom d'un vaisseau spatial qu'on aurait imaginé, genre, dans les années 80, pour un truc des années 2000. Tu sais,
ça fait Star Trek, ouais.
Ouais, voilà, c'est ça. Le Stellantis a découvert un signal inconnu en provenance de Proxima du Centaure. Bref. Donc voilà. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur cette histoire de Bitcoin, mais si ce n'est insister sur le fait que vraiment le retournement de Tesla qui a dit, annoncé triomphalement il y a 2 mois, on va accepter les bitcoins pour acheter des Tesla, et puis à peine 2 mois plus tard, ils disent on n'accepte plus les bitcoins parce que c'est mauvais pour l'environnement et c'est trop consommateur d'énergie. Enfin, ça fait plus qu'amateur, c'est ridicule, quoi. On est d'accord, c'est quelque chose de...
Ouais, ça fait très amateur, ça fait pas fiable, et je trouve ça quand même assez étonnant. Parce que certes, il peut avoir une personnalité de troll, mais c'est avant tout quand même un businessman. Et j'ai, enfin, comme tout le monde, j'ai été très très surprise de ce revirement. Après, j'ai été surprise déjà du Bitcoin avec les informations qu'on a déjà à l'heure actuelle sur l'impact environnemental, sur le positionnement de Tesla, qui est quand même une voiture électrique et donc qui a quand même pas mal communiqué sur cet aspect-là. Je trouvais ça déjà assez étonnant. Donc ça fait un peu décision irréfléchie de proposer les bitcoins dans un premier temps, mais ou c'est peut-être le fan de tech qui s'est laissé emporter avant le CEO de Tesla, je sais pas.
Je pense que c'est effectivement, enfin, ça a l'air d'être Elon Musk qui s'est dit, oh les gars, il va au bord de Tesla, il dit, j'ai une super idée, on va accepter les bitcoins. Et tout le monde se regarde genre, mais si, vous allez voir, ça va être super. Allez, hop, on accepte les bitcoins, on fait un communiqué de presse, ça va être génial. Et deux mois plus tard, ils se rendent compte qu'il y a des implications sur les subventions qu'ils vont avoir, les machins, et ils disent, merde. Ok, bon. Alors,
ouais, mais alors, si t'as personne justement dans l'équipe de Tesla qui est capable de tenir tête quand il y a des idées qui peuvent être très bonnes, hein, mais qui surgissent de nulle part, pour voir un peu les implications, faire un minimum d'investigation, et je veux dire, je trouve ça un peu inquiétant.
Ben, moi, je pense que personne chez Tesla, ni chez SpaceX, ni chez The Boring Company, ni chez personne, ne peut vraiment tenir tête à Elon Musk, parce que c'était un coup de pub énorme, et Elon Musk a quand même, c'est pas le dernier quand il s'agit d'avoir des bonnes idées, tu vois. Donc maintenant, en rétrospective, enfin en regardant en arrière, évidemment, on se dit ouais, enfin c'était un petit peu une connerie, mais sur le moment, c'est difficile de dire non, ton idée, celle-là, elle est pas bonne, alors qu'il en a eu 40 qui étaient bonnes avant. Donc je sais pas. Lolilol dit dans la chatroom, ça fait manipulateur. C'est vrai, c'est ce que se disent beaucoup de gens, ça fait manipulateur. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment idée de dans quel sens ça lui serait bénéfique. Et c'est pour ça qu'on parle de troll ou d'inconsistance ou d'inconscience presque. Parce que Tesla a acheté 1,5 milliard de Bitcoin, ils ont perdu 30% de leur valeur à l'annonce de, parce que tout le monde a peur qu'ils revendent leur Bitcoin, en fait, et que donc ça fasse chuter le marché. Plein de crypto-monnaies ont également perdu de la valeur. Quel est l'intérêt pour Elon Musk, en fait, financier, je veux dire, c'est manipulation de marché. En tout cas, ce qui est clair, c'est que à un moment, il va peut-être falloir que on se penche sur la relation entre ce que tweet Elon Musk et les mouvements financiers et les mouvements de bourse, parce que oui, il pourrait y avoir quelque chose d'illégal là-dedans. Normalement, tout ça est très régulé.
Mais il avait déjà été sanctionné, non?
Tout à fait.
Ce sujet, je suis assez étonnée qu'il n'y ait rien eu qui ait surgi suite à ces tweets, justement.
Bah c'est peut-être ce qui va arriver maintenant. Mais il avait été sanctionné, effectivement, au niveau de Tesla, et il n'a plus directement tweeté, parce qu'il avait tweeté sur le cours de l'action, si je ne m'abuse, si je me souviens bien, le cours de l'action de Tesla. Et c'est ça qui a été sanctionné. On a dit, bah maintenant, tu ne peux plus, mais là, c'était indirect. Donc, bref. Bref, voilà pour Elon Musk et ses aventures sur Bitcoin. Bah écoutez, on va faire une toute petite pause et une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'autre chose que de Patreon. Je vais vous parler d'autre chose parce que je vais vous parler de VPN et de ExpressVPN. C'est rare que je fasse ce genre de petit remplacement. Au lieu de vous parler de Patreon, je remplace par un message d'un sponsor. Mais ExpressVPN, c'est un VPN que j'utilise et c'est l'un des produits que j'utilise moi-même régulièrement. Donc, je peux vraiment vous dire à quel point il est de qualité. Et il y a plein de raisons d'utiliser des VPN. Et je pense qu'on en connaît la plupart, ça ajoute de la sécurité. Alors aujourd'hui, la plupart des sites web sont sécurisés, mais ça ne veut pas dire que tous les éléments, il y a des métadonnées qui peuvent être observées, comme l'adresse. Hein. On n'est pas encore tous en DNS sécurisé, donc l'adresse, l'URL peut être observée. Et puis, il y a des sites qui ne sont pas sécurisés. Vous pouvez être sur un réseau public, si vous êtes, je ne sais pas, à l'aéroport, dans un hôtel, ce genre de choses. Donc, c'est toujours bon d'avoir un VPN dans la poche, dans le téléphone pour le cas où vous avez besoin d'utiliser. Ça peut aussi servir à aller à des endroits où on n'est pas. Par exemple, si vous voulez regarder une série qui est disponible qu'aux États-Unis ou qu'en Angleterre ou qu'au Japon, il y a plein d'animés qui sont sur des services de streaming qui sont disponibles qu'au Japon, par exemple. Et ben, vous pouvez très facilement vous connecter avec un VPN et avec ExpressVPN au Japon pour ça. Et du coup, il y a toujours, comme je le disais, intérêt à avoir un VPN. Il y a plein d'autres usages, mais celui que je préfère, et j'en ai utilisé pas mal, c'est ExpressVPN pour tout un tas de raisons. La première, c'est la vitesse. C'est vraiment un VPN entre guillemets premium, c'est-à-dire que c'est un truc, oui, il faut payer un abonnement, mais vous avez la qualité en contrepartie. Franchement, je vous mets au défi de vous connecter par VPN et de voir la différence, à moins que vous fassiez des trucs, je ne sais même pas quoi, mais de voir la différence avec votre connexion sans VPN. Et ça, c'est quelque chose qui est surprenant, mais vraiment, ça se confirme. La qualité, la vitesse de transfert est à une différence à peine perceptible ou même imperceptible par rapport à votre connexion sans VPN. Et en plus de ça, il y a une fonctionnalité que moi, j'adore, c'est la connexion sélective. C'est-à-dire que vous pouvez choisir les apps qui vont utiliser le VPN avec le serveur auquel vous êtes connecté et les apps qui ne vont pas l'utiliser. Donc, vous pouvez avoir votre VPN qui tourne en permanence. Vos applications, par exemple, moi je l'utilise comme ça de temps en temps, vos applications que vous utilisez régulièrement ne se connectent pas par VPN, donc utilisent votre connexion classique, et les applications que vous avez choisies, un deuxième navigateur par exemple, eh ben, ils utilisent le VPN. Donc vous pouvez avoir votre connexion dans un autre pays et un navigateur qui va faire vos consultations de pages web par cet autre pays, par ce VPN, et les autres qui le font par votre connexion normale. Ça peut être vraiment utile dans certains cas. Et le dernier truc, c'est que même si vous voulez juste lancer et connecter le VPN, c'est une des fonctions que je préfère, c'est ultra, ultra rapide. Genre, ça se fait en 5 secondes, montre en main, du moment où vous appuyez sur le bouton connecté et le moment où c'est connecté, c'est 5 secondes. Ça a l'air de rien, mais je peux vous dire que les VPN qui mettent 20, 25, 30 secondes à se connecter, c'est tellement frustrant qu'on finit par ne plus les lancer et par ne plus les utiliser. ExpressVPN, il fait ça super vite et du coup, ça ajoute au confort d'utilisation et à l'utilisation tout court. Bref, si vous avez besoin d'un VPN, je vous encourage à aller regarder du côté d'ExpressVPN et en plus de ça, vous pouvez utiliser l'URL qui indique à ExpressVPN que vous êtes venu de ma part, c'est expressvpn.com/rdvtech et vous pouvez avoir un abonnement d'un an avec 3 mois gratuits. Donc c'est une petite promo, vous en profitez, moi j'en profite aussi et c'est un service que je peux vraiment vous recommander parce que moi je l'utilise, donc il y a quelques services comme ça que je suis très heureux de recommander dans l'émission. Donc, je vous en parle ici et j'espère que ça vous servira. Si vous avez un besoin de VPN, je vous recommande vraiment ExpressVPN sincèrement. ExpressVPN.com/rdvtech. Merci à ExpressVPN et à vous.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Alors, on continue l'émission avec quoi donc? Google I.O. et les Google Pixel 6. Il y a d'une part des rumeurs sur Google I.O., mais Google I.O., c'est ce soir. Donc, on va en toucher un petit mot quand même, comme d'habitude, pour voir si on sera trompé ou pas. Et puis, les nouveaux téléphones de Google, qui sont quand même une bonne nouvelle, parce qu'on avait peur qu'ils ne fassent pas de nouveaux téléphones. Mais d'abord, sur Google I.O., est-ce qu'il y a des choses qui t'ont intrigué, intéressé, Marion, sur la prochaine version d'Android? C'est Android 12.
Je suis toujours intéressée par justement quand il y a des nouveautés en termes de look, hein, d'interface, de UI, de user interface, de transition, d'animation. Là, il y a l'air d'avoir un focus un peu là-dessus. Donc, je vais la suivre ce soir. Je suis assez impatiente. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'avait pas eu de mise à jour de ce nom sur Android. Ils avaient déjà fait beaucoup, beaucoup d'efforts avec Material Design. Donc là, je vais le suivre avec assez d'impatience. Je suis assez curieuse de ce qu'ils vont sortir et également du nouveau Pixel. Je ne sais pas toi hein, si t'es intéressé, mais moi j'aime bien généralement j'aime beaucoup la gamme de Pixel, même si j'ai pas d'Android aujourd'hui, ça reste mes smartphones Android que j'aimerais avoir si je devais en avoir deux, tu vois, si je devais avoir deux smartphones.
C'est vrai. Alors, on va parler du Pixel dans une seconde, mais c'est vrai que la nouvelle version d'Android, donc Android 12, a l'air d'être vraiment une mise à jour significative d'Android, ce qu'on n'avait pas eu depuis un moment. Et c'est ça qui est excitant, un petit peu comme tu le disais. C'est la première fois depuis, je ne sais pas, peut-être 3-4 versions où on a des changements significatifs dans l'OS. Il y a d'une part, les éléments graphiques que tu évoquais, il y a des vrais changements dans les widgets, dans les notifications, enfin une vraie refonte graphique. Mais il y a aussi une question de plus de vie privée. Alors, vie privée avec des guillemets, on pourra en reparler, mais ils vont pas aussi loin qu'Apple parce que leur business model, c'est la pub. Mais quand même, un petit peu plus d'informations, on va dire, sur ce que font les apps, ça, c'est important. Et puis, il y a aussi plus de cohérence dans l'écosystème des appareils que fabrique Google, parce qu'on a évoqué le Pixel 6, mais il y a aussi d'autres appareils dont on va parler tout de suite. Mais quoi qu'il en soit, je vais suivre ça avec beaucoup plus d'intérêt que les annonces précédentes, parce que jusqu'à maintenant, ces dernières années, ils avaient plutôt passé en retrait les nouvelles versions d'Android. Vraiment, ils disaient « bon, allez, c'est pas très important ». Là, il semble qu'il y ait quelque chose d'important. Donc, c'est notable et je pense que les utilisateurs sont heureux.
Et tu parlais de cohérence entre plus de cohérence entre les produits, il va y avoir aussi plus de cohérence sur l'interface en elle-même. C'est ça qui a, moi en tout cas, c'est ça qui m'excite beaucoup aussi. C'est qu'on a souvent reproché une expérience fragmentée entre les widgets, chaque marque qui fait un petit peu sa soupe, etc. Et compagnie. Et là, on a l'information comme quoi ils vont supporter les thèmes, que ce soit des changements de thèmes dans l'interface ou des thèmes sur les widgets. Donc ça veut dire qu'ils ont potentiellement mis des règles peut-être un peu plus strictes ou en tout cas des recommandations, parce qu'avant c'était un petit peu chacun fait ce qu'il veut, sur les widgets. Moi c'est ce que je regrettais un petit peu, il y avait Windows Phone qui était trop strict, il y avait Google qui était trop permissif et iOS qui était trop restreint. Et donc là on a un petit peu Google qui se met un peu au bout du jour, un peu comme iOS qui a rattrapé son retard un petit peu avec les widgets. Mais donc là, de supporter des thèmes, ça va peut-être permettre une plus grande cohérence sur l'expérience entre les widgets, entre les apps et sur les interfaces Google. Donc, sur les interfaces Android. Je suis assez intéressée par ça aussi.
Écoute, espérons que ça soit de cette qualité, effectivement. On a donc aussi les Pixels, des rumeurs sur les Pixels et Pixel 6 Pro. Alors là, ce n'est pas ce soir, hein. Ça sera à la rentrée, a priori, comme toutes les annonces matérielles. C'est un petit peu le cycle, hein. On fait les annonces logicielles au printemps et les annonces matérielles à la rentrée vers septembre-octobre. C'est le cas pour Apple également. Et on a non seulement un Pixel 6 et Pixel 6 Pro qui ont comme caractéristique physique une petite caméra selfie en trou dans l'écran, tout petit, en haut de l'écran devant, avec un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, en bas de l'appareil, et derrière, non pas un bloc d'appareil, enfin d'objectif, mais une barre qui fait toute la largeur de l'appareil et qui est un petit peu rehaussée par rapport au plat du dos de l'appareil et qui inclut toutes les caméras, enfin tous les appareils photo. Donc ça, c'est pour les pixels. Et l'autre élément intéressant, c'est qu'il n'y a pas que les téléphones qui devraient être annoncés, il y a aussi une montre. Et on sait que Google travaille sur des montres depuis longtemps, en particulier avec Wear OS. Et bien là, il y aurait une montre qui serait, on va dire, là encore, on avait l'impression qu'ils avaient un petit peu lâché l'affaire ces dernières années. Et bien là, ils reviennent avec une montre qui est ronde, donc notable, hein, une montre ronde, et puis surtout une Digital Crown comme ce qu'on a sur Apple Watch, donc qui est un élément d'interface et de contrôle qui fonctionne vraiment sur ce type d'appareil. Et qu'est-ce que j'avais noté? Ils ont un Google chipset pour la montre, comme on avait entendu que ça serait le cas, une puce faite par Google elle-même pour le téléphone également. Du coup, on se dit, il est possible qu'ils aient attendu que ces puces soient prêtes pour relancer leurs efforts au niveau matériel. Les montres qui ont également été leakées par John Prosser, elles ont l'air quand même très très belles et rondes, ça fonctionne pas mal. Et il y a plein de bandeaux, de bracelets, un petit peu comme chez Apple. C'est toujours un petit peu délicat de dire qu'ils copient Apple, parce que Apple copie Google, qui copie Amazon, qui copie Apple, et tout le monde se copie. Mais il y a clairement de l'inspiration là-dedans. Mais ça m'a l'air quand même d'être d'assez bonne qualité. Moi, là encore, un petit peu comme toi, Marion, je suis assez excité de voir ce que Google va faire avec une refonte graphique et une refonte matérielle. Ça pourrait être un écosystème Android qui... alors, on a déjà un écosystème du côté de Samsung qui fonctionne pas mal, qui est un petit peu le gros concurrent, mais peut-être que ça pourrait être une alternative. Et évidemment, comme Google contrôle aussi l'OS, ça pourrait être potentiellement encore plus efficace. Je suis curieux s'il te séduit, c'est ce Pixel 6 et cette Watch, je ne sais pas, Pixel Watch.
Le Pixel 6, j'aime pas du tout les leaks qu'on a pu voir avec cette espèce de bandeau un peu bulky sur le dos là, qui va être un nid à poussière et qui va se prendre les pets à chaque fois qu'on va le poser quelque part. Donc là, je suis un peu triste parce que justement les Pixels, c'était quand même une gamme de smartphones que généralement j'appréciais beaucoup le design produit. Donc là, je suis un petit peu voilà, chagrin.
En plus, au niveau des couleurs, c'est un peu étrange. Il y a une sorte de tricolore noir-orange et puis quoi, une sorte de rose pâle. Un peu bizarre. Ouais.
C'est trop complexe. C'est un peu du chichi et c'est un petit côté rétro. Je pense que ça va pas forcément très très bien vieillir. Mais bon, après, c'est un parti pris et ce qu'on peut, encore une fois, là où on peut saluer Google, c'est qu'ils testent des choses différentes et qu'ils osent. Ça marche pas à tous les coups, mais ils explorent un peu plus que beaucoup d'autres. Donc voilà. Mais bon, voilà, moi, ça sera pas, je passerai mon tour pour cette année. Par contre, pour la Google Pixel Watch, oui. Moi, j'aime pas les Apple Watch, c'est moche. C'est gros, c'est bord à carré arrondi, là, c'est trop laid. Donc là, je sens que ça chauffe dans la chatroom ou dans chez les personnes qui
écoute, t'aimes pas les téléphones Google, t'aimes pas les montres Apple, donc tu réussis à énerver tout le monde, c'est parfait.
Exactement. Mais là, je dois avouer que ce que je peux voir des Google Pixel Watch, ça a l'air très intéressant. On revient un petit peu à l'origine de la montre en gardant les interactions qui fonctionnent bien que Apple a pu trouver avec la Digital Crown. Donc, je suis assez curieuse de comment ils vont gérer les transitions sur un écran de forme ronde, parce qu'en fait, c'est vraiment la prise de tête, je trouve, de ces interfaces rondes. C'est les transitions, les animations, les interactions qui sont pas forcément très très fluides. Je suis un peu curieuse de voir comment ils vont gérer ça, donc je vais suivre avec attention ce soir.
Peut-être qu'ils parleront de Wear OS, effectivement, mais on rappelle le matériel, donc les montres et les téléphones, ça sera a priori à la rentrée et pas ce soir. C'est pour ça qu'on passe un petit peu.
Oui, il faut patienter encore.
Dessus. Quoi d'autre ? Alors, je voulais parler un tout petit peu de WhatsApp, parce que, comme vous le savez, il y a eu un certain nombre d'articles, enfin de préoccupations sur la politique de données de WhatsApp et la manière dont WhatsApp est en train de gérer l'acceptation des nouvelles conditions d'utilisation. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont établi des nouvelles conditions d'utilisation et ils ont mis une sorte d'ultimatum à tous les utilisateurs. Soit vous acceptez les nouvelles conditions d'utilisation, soit vous ne pourrez plus utiliser WhatsApp. Peu à peu, les fonctionnalités de WhatsApp vont disparaître. Alors, beaucoup de gens ont pensé, et je vais être très honnête, moi le premier, j'ai pensé que les nouvelles conditions d'utilisation étaient liées au partage d'informations entre WhatsApp et Facebook. Bien sûr, Facebook, maison mère de WhatsApp, dont le revenu vient essentiellement de la publicité, plus de données privées, plus de qualité dans le profil. Alors, je pense qu'il est difficile d'avoir plus d'infos que ce qu'ils ont déjà sur nous sur Facebook, mais peut-être il y a des utilisateurs de WhatsApp qui ne sont pas des utilisateurs de Facebook, ou Dieu sait quoi, qu'ils font d'autres types d'interactions sur WhatsApp, donc que ça les aiderait à faire un profil combiné. Eh bien, en fait, pas du tout. C'est pas ça que couvrent les nouvelles conditions d'utilisation. Et un article très bien écrit de Chloé Wattier, notre amie, sur Le Figaro, qui explique de quoi il en retourne. Ce n'est pas donc un partage de données avec Facebook, mais un partage de données, enfin une suspension du chiffrement pour vos communications avec les sociétés avec lesquelles vous communiquez déjà sur WhatsApp. Donc, c'est dans le but d'augmenter les interactions de commerce avec les sociétés avec lesquelles vous interagissez sur WhatsApp, ce qui nous concerne peut-être un petit peu moins en France et en Occident en général, mais qui est très, très présent dans d'autres pays du monde. Il y a beaucoup de sociétés, de petits commerces, de gros commerces, qui font leur business sur WhatsApp. Je vous passe les détails, mais c'est vraiment, vraiment commun. Et donc, ils veulent faire en sorte que vous puissiez plus facilement avoir les informations sur votre communication, vos discussions, et les envoyer à la société en question. C'est automatisé, hein, bien sûr. Et donc, ils veulent suspendre le chiffrement de cette conversation pour que la société puisse avoir les informations de votre conversation et donc puisse vous servir plus efficacement. Alors, on peut décider si oui ou non c'est une pratique acceptable ou pas. Je vous laisserai décider de la chose et il faudrait peut-être plonger un petit peu plus dans les détails pour avoir le fin mot de l'histoire. Mais je tenais à le mentionner parce que beaucoup de gens pensent que ça a à voir avec Facebook, alors qu'en fait, pas du tout, ça a à voir avec le chiffrement et le commerce. Donc, au moins comme ça, vous saurez.
Ouais, puis c'est, enfin, il faut pas être naïf. Hein, les professionnels ou les sociétés vont avoir besoin d'outils tiers pour gérer leur communication et leur relation client sur WhatsApp. Et si vous voulez qu'on vous réponde en temps et en heure, qu'on vous donne un service de qualité, WhatsApp va peut-être pas développer tous les outils pour les commerçants, mais va laisser l'accès à des professionnels dans le secteur. Et donc, du coup, pour pouvoir faire ça, il faut donner accès aux données, donc lever le chiffrement. Ce qui est très compliqué, je trouve, en termes de communication, et on voit là qu'ils se sont vraiment pris un mur avec la manière dont ils ont communiqué cette mise à jour, c'est qu'il faut comprendre que tes communications avec des personnes sont chiffrées, mais les communications avec des sociétés ne sont pas chiffrées. Donc, ça devient un peu compliqué en termes de proposition de valeur pour WhatsApp et comment se positionner par rapport à la concurrence, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, mais oui, c'est pas très très clair, quoi.
Mais d'ailleurs, la concurrence a vu une explosion totale de leur nombre d'installations, que ce soit pour Telegram et Signal, qui sont les deux concurrents principaux. Et ils ont vu une explosion du nombre d'installations qui est monumentale. Cet article de Sensor Tower, qui est un cabinet d'analyse, parle de 1200% d'augmentation. Bon, c'est clairement un but différent. Telegram et Signal sont dédiés à la communication en message direct. WhatsApp, comme le dit, je crois que c'était Guillaume dans la chatroom, se destine à devenir WeChat. Zuckerberg ne s'en cache pas. Il avait déclaré il y a peut-être 2 ans maintenant que le futur des réseaux sociaux n'était plus exactement les réseaux sociaux tels qu'on les connaît aujourd'hui, mais des apps de message direct étendues telles que WeChat, qui ont un succès énorme en Chine. Et on peut penser à Line aussi. C'est des applications qui fonctionnent très, très bien en Asie et qui sont beaucoup plus que des applications de message directe, qui font aussi tout ce qui est commerce. Il y a des mini-apps qui peuvent s'installer dans l'app elle-même. Enfin, il y a énormément de choses. Et bon, donc voilà, c'est pas très surprenant qu'il aille dans cette direction. Moi, j'avoue que Oui, vas-y.
C'est pas juste pour rebondir sur ce que tu dis, c'est pas surprenant d'aller dans cette direction, sachant qu'en plus, Instagram va aussi largement dans cette direction. On est quand même parti d'une plateforme qui était dédiée aux personnes fans de photos, etc., pour aller vers une plateforme qui évolue vers principalement du commerce, quoi. Et ça fonctionne extrêmement bien. C'est assez redoutable, hein. Même moi, je me laisse prendre au jeu. Je suivais principalement des artistes au début. Là, je peux vous dire que je me fais assaillir par les marques, mais des marques que j'apprécie, hein, mais par les marques, des produits, etc. Et j'ai l'impression, en fait, d'avoir une expérience publicité parfaitement intégrée et personnalisée. Après, la question, c'est est-ce que c'est ce que je recherche sur du long terme ou pas? Bon, c'est une question que chacun doit répondre pour lui-même. Hein, mais voilà, donc il y a vraiment une cohérence de stratégie aussi du côté de Facebook. Et pour avoir fait l'expérience justement de communiquer avec une société sur WhatsApp, ça fonctionne très bien. C'est assez pratique.
Tout à fait. Le truc que j'irais sur ça, c'est que je comprends le tollé que ça provoque, mais en même temps, j'allais dire, on n'a qu'à aller ailleurs, et c'est ce que font beaucoup de gens avec Signal ou Telegram. Je comprends que on a déjà notre réseau social, notre réseau familial qui est établi sur WhatsApp. Et déjà, c'est difficile de passer de Facebook Messenger pour certains à WhatsApp. Alors, leur dire ensuite qu'il faut passer sur Signal ou Telegram, c'est compliqué. Mais en même temps, je ne sais pas, est-ce que c'est une prise d'otage de WhatsApp qui dit bah, « maintenant, vous n'avez pas le choix, vous faites comme ça et on vous a bien appâté avec notre service super cool et maintenant, donc il faut faire comme ça et donc c'est un petit peu, bah, comme je disais, une prise d'otage » ou est-ce que c'est juste « bon, bah, ils décident de faire ça et si on n'est pas d'accord, bah, on peut partir ». Voilà, ça n'est pas problématique de se dire bah, « ils changent leurs conditions d'utilisation, donc on se barre ». Et moi, je suis plutôt du côté de bah, « on change les conditions d'utilisation, donc on se barre », mais peut-être que je suis moins impliqué et toute ma vie n'est pas sur WhatsApp, ou plutôt mes amis qui sont sur WhatsApp se sont transférés déjà sur Signal, qui est encore plus transparent au niveau de la sécurité, que Telegram. Donc, ça me dérange moins, on va dire, mais peut-être que certains sont trop impliqués dans, dans WhatsApp pour que ça soit un choix facile.
Je pense que ouais, c'est une bonne question que tu te poses et je pense que la valeur de WhatsApp, c'était pas la sécurisation des échanges et le chiffrement par définition, c'est juste de pouvoir communiquer facilement avec ses proches dans une application efficace. Le chiffrement, ça vient en bonus, mais c'est pas le cœur du positionnement de WhatsApp, enfin il me semble, comparé à Signal ou Telegram, où là ils font leur positionnement vraiment là-dessus. Et le problème avec le chiffrement ou les personnes vraiment à cheval sur la privacy, c'est que ça reste une niche, qu'on le veuille ou non, c'est un petit groupe de personnes qui va vraiment avoir un intérêt ou vraiment, qui va vouloir vraiment faire attention à ça, ça va être limité en termes de groupe de personnes. Or, Facebook vise la croissance, le revenu, et donc ils vont développer des fonctionnalités qui va leur permettre de développer ça. Et donc le commerce est une route tout à fait logique dans la stratégie de Facebook et toute tracée. Là, moi non plus, je ne pense pas que Facebook essaye de prendre en otage les gens. C'est une évolution logique du produit. Et s'ils veulent répondre aux besoins des sociétés, ils sont obligés de passer par là. Donc en fait, est-ce que c'est les sociétés qui prennent en otage Facebook ou Facebook qui prend en otage ses utilisateurs? C'est un peu tout. Et de nombreux produits utilisent cette stratégie. Hein. Si à un moment donné, on n'est pas satisfait, on change de produit. Mais là, il n'y a pas de... Enfin, j'ai pas l'impression, en tout cas moi de mon point de vue, qu'ils enfreignent des règles de privacy vis-à-vis des utilisateurs, parce qu'en fait c'est très clairement limité aux échanges de sociétés. C'est pas pour le bénéfice de Facebook directement, c'est pour l'utilisation au niveau des sociétés. Et donc en fait là, j'ai l'impression que ça se justifie en tout cas. Et j'ai aussi l'impression qu'on est biaisé avec un biais négatif dès que Facebook fait quelque chose.
Oh mon Dieu,
ils essayent nous avoir. Voilà, il y a une confiance qui a été brisée dans les différents scandales. Et à raison, hein, dans les différents scandales qui se sont passés. Et je me demande si on n'est pas aussi biaisé parce qu'on est fan de tech et que nous, on est particulièrement au courant de ça. Je pense que la majorité l'ont oublié ou ne le porte pas aussi à cœur que nous. Voilà.
C'est sûr. Ceci dit, les augmentations d'installation de Signal, moi, j'ai eu énormément de gens qui, Telegram et Signal, qui ne sont pas particulièrement technophiles, qui tout à coup sont apparus sur Signal ou Telegram.
Oui, hein, mais ça, je pense que c'est... Tout à fait, mais je pense que c'est une conséquence de la mauvaise communication plus que du changement qui a été très clairement expliqué là dans cette émission. Je pense que c'était comme tu l'as dit, ils se sont vraiment pris les pieds dans le tapis sur la communication, d'où l'importance de bien communiquer et d'avoir des termes qui ne sont pas flous mais précis et qui sont accessibles aux utilisateurs, ce qui n'était vraiment pas le cas à l'origine.
Tout à fait. Écoutez, parlons maintenant un petit peu rapidement de ce qu'on évoquait à l'épisode précédent. Vous vous souvenez de DarkSide, l'organisation du Dark Web qui faisait des opérations de rançongiciel et qui a mis en danger la société coloniale qui avait un pipeline aux États-Unis. Eh bien, ils auraient été... Alors, soit ils ont été démantelés, soit ils se sont barrés en emportant la caisse et en disant « Oh là là, le gouvernement américain nous a démantelés ». On ne sait pas lequel c'est exactement, mais ce qui est sûr, c'est que... ils ont disparu. Donc ça, et c'est une conséquence directe de ce qui s'était passé il y a quelques semaines. dans un sens ou dans l'autre. Et donc, les rançongiciels commencent à être vraiment dans le collimateur des autorités. Et d'un autre côté, vous vous souvenez qu'on disait que AXA, l'assureur français, avait annoncé qu'il ne rembourserait plus les paiements des rançons dans les cas de rançongiciels, pour tout un tas de raisons qu'on évoquait la semaine dernière. Eh bien, ils se sont retrouvés rançongicielisés eux-mêmes dans leur bureau asiatique, notamment, suite à cette annonce. Donc, bon, c'est un petit peu malheureux, mais ils ont été la cible d'acteurs malveillants et de rançongiciels suite à cette décision qui, ceci dit, va sans doute se propager ailleurs chez d'autres assureurs également. Donc, je voulais le mentionner parce que c'était une suite directe de ce qu'on évoquait la semaine dernière. On va peut-être faire un petit très rapide tour de l'actualité restante. Oculus a annoncé une mise à jour du Quest qui vous permet de filmer votre activité en jeu et vous-même en même temps, c'est-à-dire que vous avez les images du jeu auquel vous jouez en réalité augmentée et si vous avez un téléphone, un iPhone par exemple, vous pouvez avoir la personne qui joue en même temps sur cette image qui est filmée avec l'iPhone. Donc, il y a une surimposition de la personne sur l'environnement du jeu, ce qui permet de filmer la réalité augmentée, la réalité virtuelle de manière un petit peu plus attrayante parce que c'est toujours difficile de filmer ça. Et là, ça a l'air de fonctionner pas mal. Instagram permettra bientôt de poster des photos depuis le web. Et c'était pas possible jusqu'à maintenant, je le note, parce que c'est quelque chose qui pourrait avoir un rapport avec ce qui se passe avec Apple et le combat entre Facebook et Apple. Eh bien, le site web aura peut-être un attrait plus important pour Instagram à l'avenir. Donc, ils sont en train d'ajouter des fonctionnalités au site web. Twitter serait en train de travailler sur Twitter Blue, un abonnement à 3 dollars par mois qui vous offrirait différents outils. Donc, les abonnements sur Twitter arrivent. Parler, l'application Twitter-like qui est plutôt fréquentée par les extrémistes de droite, est de retour sur l'App Store, mais avec un changement intéressant qui est que tous les posts qui sont labellisés comme posts de haine par leur intelligence artificielle. Donc, ils ont effectivement, vous savez qu'ils défendent la liberté d'expression, je mets des guillemets dans la voix, et qu'ils ont donc certains posts qui sont des posts de haine, eh bien, ces posts-là, ces contenus-là, ne s'afficheront pas sur iOS, alors qu'ils seront visibles sur les autres appareils et sur le web. C'est une dichotomie hyper intéressante, et c'est ce qui permet à l'application de revenir sur l'App Store, malgré les contraintes d'Apple. Et je crois que ça va être tout pour les petits sujets rapides que je voulais évoquer. Est-ce qu'il y a un sujet qui t'a particulièrement plu, ou est-ce que tu veux nous parler de cette aventure qu'a eu Bill Gates au début des années 2000 qui le fait descendre dans mon estime, qui révélait tout à coup une aventure.
Je t'avoue que ça m'intéresse pas trop ce genre de...
D'accord, alors on parle d'autre chose. MGM racheté par Amazon peut-être, qui se met dans le... ou les sujets que j'ai évoqués.
Ça c'est assez logique. Ça, c'est logique. Non, ce qui est intéressant, c'est Instagram sur le site internet, là, Instagram qui essaie de se muscler pour revenir sur le sujet où ils deviennent une plateforme commerçante. Ça semble assez logique à voir s'ils vont pouvoir concurrencer et devenir... je vais un peu loin, mais est-ce qu'ils vont pas avoir des mini-sites internet via les comptes accessibles sur Instagram via le site internet Instagram ? C'est assez intéressant de voir jusqu'où ils vont aller.
Ce qui est sûr, c'est que ça
très chouette.
Ça pourrait être un moyen de se donner une porte de sortie si les choses se dégradaient avec Apple. Je pense que, en tout cas, moi, je le lis un petit peu comme ça. Peut-être que j'extrapole un peu trop.
Ouais, peut-être aussi, ouais, peut-être. Et puis après, Twitter et les abonnements de Twitter, curieuse de voir comment ça va se passer là concrètement. On voit de plus en plus de choses qui arrivent sur Twitter et j'ai plutôt hâte de les tester, en fait. Toi, ouais. tu te sens de t'abonner ? Est-ce que tu te verrais faire ça ? Est-ce qu'il y a des personnalités sur Twitter où tu te verrais t'abonner ?
Alors, c'est compliqué parce que là, ça a l'air de... C'est pas un abonnement à des personnes. C'est un abonnement à Twitter qui te donne des fonctionnalités comme un undo tweet, par exemple, qui te donne 10 secondes pour, avant d'envoyer le tweet pour l'éditer, ce genre de choses.
D'accord.
Donc, c'est là encore un autre, c'est un truc qui est en rumeur.
J'étais restée sur plutôt le modèle Substack, ouais, en effet.
Mais alors, pour répondre à ta question, pourquoi pas, il y a des gens, si ça m'apporte une certaine valeur, Twitter est quand même un réseau social sur lequel je passe énormément de temps, si ça m'apporte une certaine valeur, je peux tout à fait imaginer m'abonner à des utilisateurs qui donnent des informations intéressantes ou peut-être pour les soutenir. Moi, il y a des analystes que je suis depuis très longtemps qui ont déjà une valeur énorme, en particulier dans le domaine du jeu vidéo. Je pense à des gens comme Daniel Ahmad ou Benji Sales ou Oscar Le Maire local que je voudrais bien soutenir. Donc peut-être oui. C'est tout à fait possible. Je dis pas non, on va dire. Ça dépendra de ce que c'est exactement. Eh bien, écoutez, je pense qu'on arrive au terme de cet épisode. Un grand, grand merci à Marion pour ton accompagnement dans toutes ces discussions. Est-ce que tu pourrais nous dire où on peut te retrouver sur Internet ?
Bien sûr, vous pouvez me retrouver sur Twitter au compte Aizea Design et puis tous les mercredis matins sur Twitch, sur la chaîne Naotech QG pour l'émission Le Mug.
Merci beaucoup Marion. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Je suis également disponible sur Twitch et tous les liens sont sur notepatrick.com. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir l'émission sur patreon.com/rdvtech. C'est extrêmement important, même si la publicité est un bon complément de revenus. Et d'ailleurs, n'oubliez pas que vous pouvez aller sur expressvpn.com/rdvtech. C'est un bon complément de revenus, mais l'essentiel des revenus est tout de même celui que les auditeurs font directement à l'émission. Et si c'est le cas, vous aurez une émission sans pub et avec des bonus, donc patreon.com/rdvtech pour ceux qui le souhaitent. Je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.